Écoutez, c'est spécial aussi ce matin parce qu'à la fin du service, qui va terminer à l'heure habituelle cette semaine, à la fin du service, on a le vote pour les membres, on a le vote pour le pasteur exécutif en formation. Donc, c'est très excitant, on voit quelle va être la réponse de l'Assemblée dans tout ça. Alors, lorsque le service va se terminer, on va prendre 5 minutes. Je vais vous le rappeler à la fin, on va prendre 5 minutes, laisser les gens qui doivent quitter. Les membres, évidemment, on vous demande de rester en principe. Vous avez déjà vos bulletins, tout ça, mais je reviens là-dessus à la fin. Et donc, ça ne sera pas tellement long. Ça va être une réunion qui va durer au maximum une dizaine de minutes pour faire ce vote-là. On vous rappelle aussi, la semaine dernière, on a lancé un super beau défi, plus 20% pour la vision. Alors, les anciens vont aller faire le tour des petits groupes pour répondre à des questions, parler davantage de la vision, parler de ce défi-là avec vous. Mais vous pouvez vous prendre un dépliant en sortant sur votre gauche. Aussi, on me demande de vous rappeler que les reçus pour fin d'impôt sont disponibles depuis la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on termine cette semaine, en fait, la série sur la vision. La semaine prochaine, on commence un nouveau livre biblique. Alors, je veux vous lancer un petit défi cette semaine. 20-quelques chapitres, c'est pas tellement long à lire. Vous pouvez lire ça cette semaine. On s'en va dans l'Ancien Testament. On a intitulé la série « Selfie », vous verrez pourquoi. Mais c'est dans le livre des juges dans l'Ancien Testament. Alors, je suis vraiment excité d'aller regarder ce livre-là avec vous. Si vous ne l'avez jamais lu, ce serait vraiment pertinent de faire un petit sprint cette semaine puis lire le livre des juges. On va passer 5 semaines dans ce livre-là. Alors, juste placer un peu le récit, tout ça. Puis dimanche prochain, je vais prendre le temps vraiment d'introduire le contexte, de voir où est-ce qu'on est dans l'histoire d'Israël. Alors, s'il y a beaucoup de données historiques que vous avez de la difficulté à situer, inquiétez-vous pas avec ça, on va voir ça la semaine prochaine. On va passer maintenant à la lecture des Écritures dans quelques instants et j'aimerais inviter nos lecteurs à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on termine la série sur la vision. Ça va très, très vite, d'accord? Ce qu'on voulait faire à travers cette série-là, c'est simplement vous informer, vous présenter cette vision-là. On va y revenir progressivement au cours des 5 prochaines années. Mais on veut que cette vision-là soit alimentée, nourrie par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Si ce sont des projets, des projections qu'on fait, des objectifs qu'on se donne, et qu'ils ne viennent pas de la parole de Dieu, et que c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous motive à le faire, notre élan prendra même pas son départ, d'accord? C'est vraiment guidé, instruit, animé par l'Esprit de Dieu qu'on veut le faire. Alors, on va écouter des lectures, des Écritures qui nous conduisent justement à chercher ce ministère de l'Esprit dans nos vies. Si vous le permettez, on va juste aller dans un mot de prière avant de lire la parole de Dieu. Père éternel, ta parole est sainte. Ta parole est sainte, Seigneur, parce qu'elle nous révèle qui tu es. Tu es esprit. Tu es esprit, notre Dieu, et nous avions besoin que tu viennes vers nous, que tu fasses ce pas pour te révéler à nous à travers tes Écritures. Et dans ces passages, Seigneur, on va parler de cette relation intime que nous avons avec ton Esprit Saint qui habite en nous, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens nous faire grandir afin que nous soyons sensibles à marcher en écoutant ton Esprit, en le laissant dévoiler nos cœurs, révéler nos cœurs, disposer nos cœurs à marcher dans tes voies, Seigneur. Alors, je te prie d'être avec Julie, avec Serge, avec nos cœurs et de venir nous parler ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le premier passage de ce matin est tiré du livre de Jean, chapitre 4, versets 22 à 24. Je vais faire la lecture dans la version 8 secondes. Jean, chapitre 4, versets 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Romains, chapitre 8, versets 5 à 17. Romains, chapitre 8, versets 5 à 17. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Le troisième et le dernier texte se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 25, versets 16 à 26. Galates 25, 16 à 26. Galates 5, autant pour moi, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Merci. Qu'est-ce qu'on est en train de vous présenter à travers la vision? On est en train de vous présenter le genre d'église qu'on veut être. On est une église qui connaît la parole de Dieu, qui cherche à marcher avec Dieu. Mais à quelque part, dans tout ce qui a été lu là, on veut être une église qui est branchée sur Dieu, quotidiennement. Une église qui ressemble à Christ. Si on avait à résumer tout ce qui a été dit dans les dernières semaines et ce qui va se dire encore ce matin, on veut être une église qui ressemble radicalement à Jésus-Christ, qui prend Jésus au mot dans ce qu'il projetait de la personne de Dieu, qui prend Jésus au mot dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses actions, qui prend Jésus au mot lorsqu'il nous dit qu'on peut être en communion avec le Père comme lui-même est en communion avec le Père. On veut devenir une église qui est radicalement comme Jésus. Et j'aimerais ça mentionner quelque chose tout de suite. C'est beaucoup. À travers la vision, on présente beaucoup de choses. Puis je méditais sur ça, je réfléchissais encore sur ça. Puis je me disais, mes amis, ça aurait pris comme 10 semaines pour présenter chacune des valeurs puis tout ça. Puis en même temps, cela aurait pu vous donner l'impression que, oups, c'est comme, on est juste là, tu sais. Alors recevez tout ça comme une communication, une direction. On veut clairement que vous compreniez la direction qu'on est en train de prendre comme Église. Comme je l'ai dit à travers les dernières semaines, on n'est pas en train de quitter nos racines. Celles-là, on veut les approfondir. Mais il y a d'autres domaines où on veut grandir aussi. Et donc, si on a cet énoncé de vision, puis on a 10 valeurs, on en a vu 5 la semaine dernière, on va en voir 5 autres ce matin. Si on a cet énoncé de vision et ces 10 valeurs, certaines de ces valeurs-là vous ressemblent déjà. C'est correct? C'est super. Continuez à grandir là-dedans. D'autres, vous dites, ça c'est tellement pas moi. On pense qu'il faut grandir dans ces domaines-là. Et donc, on a tous à grandir à un endroit ou à un autre. Et recevez ça comme voici ce que les anciens sont en train de vous dire, voici l'Église qu'on veut devenir, et apprenez simplement à être attentif puis à dire, est-ce que je dois grandir dans ce domaine-là personnellement? Est-ce que ça me met au défi moi? Ou est-ce que c'est déjà ça me caractérise puis c'est dans tel autre domaine que je veux grandir? Lorsqu'on prépare une vision, souvent les gens vont dire, bon, tu travailles sur 2-3 choses à la fois seulement. Puis lorsqu'on est en train de travailler sur ça, on a eu des discussions avec les anciens parce qu'on s'est dit 10 éléments, 10 valeurs à travailler, c'est comme beaucoup de choses. Mais c'est intentionnel si on en a laissé autant que ça. On voulait que l'Église saisisse qu'on ne perd pas nos racines. Pas du tout. Mais en même temps, il y a des endroits, il y a des domaines où comme témoignage, comme corps de Christ, comme Église, il y a des domaines où nous regardons l'Église comme ancien puis on dit on ressemble pas tout à fait à Christ encore. C'est pas vrai. Les gens de l'extérieur qui nous côtoient comme Église ne voient pas Christ dans tel aspect de cette assemblée. Et notre aspiration, c'est de ressembler entièrement à Jésus-Christ. Amen. Alors mettez ça dans la prière et puis partez de cette série-là en étant attentif au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. On va revenir ces choses-là à travers les messages, à travers différents outils, différents défis qu'on va vous lancer. Prenez ceux qui vous mettent au défi, vous, de grandir pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle l'énoncé de vision. On l'a ici en avant. Voici ce qu'on veut devenir. Une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, ce n'est pas premièrement une Église qui est centrée sur l'évangélisation. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'Évangile de Jésus-Christ est au centre de la révélation de la parole de Dieu, la personne de Christ est au centre, et que c'est dans la mesure où nous grandissons dans notre connaissance de Jésus-Christ, dans notre appréciation de son Évangile, dans tout ce que ça implique à tous les jours dans notre vie, que nous allons devenir une famille qui marche tout près de Dieu, qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Nous croyons profondément que c'est dans la puissance de l'Évangile qu'on va puiser pour devenir cette famille-là qui marche tout près de Dieu, qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Ce n'est pas dans des lois qu'on va découvrir ça, qu'on va trouver cette force-là. Ce n'est pas, non, il faut aller plus erroné de Dieu qui va nous présenter un Dieu amour et ça s'arrête là. Non, il faut aller puiser au cœur de l'Évangile et voir toute la justice, la sainteté, l'amour et la grâce de Dieu réunis dans la personne de Jésus-Christ et de son œuvre pour devenir cette famille-là. La semaine dernière, on a commencé par voir 5 valeurs racines, d'accord? Plusieurs d'entre elles nous ressemblent déjà, mais déjà, je sentais qu'il y avait du monde dimanche matin qui disait, oh, Yannick, tu nous bouges. Déjà, tu es en train de nous dire qu'il va falloir qu'on change, il va falloir qu'on grandisse. On est dans les valeurs racines encore. Si on peut les afficher à l'avant, s'il vous plaît. Donc, ces 5 valeurs-là, racines qui nous ressemblent déjà. Premièrement, une Église qui est émerveillée par l'Évangile. Une Église qui redécouvre la splendeur de l'Évangile. Tous ceux qui ont étudié les réveils spirituels à travers l'histoire et qui n'ont pas cherché des formules magiques découvrent qu'au centre des réveils spirituels dans l'Église, il y a toujours une redécouverte de l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est à travers la découverte à nouveau de l'amour de Dieu qu'on trouve ce zèle ardent pour la gloire, pour la sainteté de Dieu, cet amour et cette compassion pour les hommes, pour les gens autour de nous. Une Église émerveillée par l'Évangile qui perd jamais cette, cet émerveillement-là devant l'amour de Dieu. Une église qui connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Ça veut dire qu'on va vous mettre au défi de la connaître, la parole de Dieu. Qu'elle nous habite dans notre compréhension, notre intelligence, mais qu'elle nous habite aussi dans nos cœurs. Parce qu'elle devient notre nourriture quotidienne dans toutes les épreuves de la vie. Une église qui s'investit à fond dans la formation de disciples. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, à travers nos dons spirituels, à travers nos talents, nous sommes appelés à être impliqués dans la formation de disciples. Ne serait-ce que dans une prière ardente pour que Dieu sauve des milliers d'âmes et fasse d'eux des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à nous investir d'une manière ou d'une autre dans la formation de disciples. Une église qui envoie des équipes solides implantées d'autres églises. C'est un des plus grands symboles d'une église en santé dans le livre des Actes que de voir Antioche envoyer des missionnaires implanter des églises solides. Et nous croyons fermement que nous sommes appelés à faire ça. On est appelé à le faire sur la rive sud, dans la Montérégie, sur l'île de Montréal. Partout où Dieu va nous conduire à envoyer des équipes solides. Ça veut dire des équipes qui sont accompagnées d'un implanteur, mais d'anciens et de gens qui quittent l'église ici en disant « Dieu nous a appelés à être missionnaires ailleurs. On était missionnaires ici, Dieu nous a appelés à être missionnaires ailleurs et on est prêt à quitter notre confort pour aller implanter une église solide. » Une église qui envoie des missionnaires dans toutes les nations de la terre. C'est complètement fou, mais ça veut dire qu'on va prier comme église pour que Dieu convainque plusieurs d'entre nous de quitter notre terre natale puis aller servir le Seigneur ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que votre cœur dit, Seigneur, où tu veux, je te suis? Où tu veux, je te suis, Seigneur? Parce qu'il va le faire. Il va le faire. Alors, ce matin, je vous présente 5 autres valeurs, des valeurs qui vont nous faire bouger, qui vont nous sortir davantage de notre zone de confort. Plusieurs d'entre elles, vous allez voir, en grandissant là-dedans, on va ressembler davantage à Christ. D'autres, c'est plus pour l'ensemble de l'Église dans notre fonctionnement. Mais donc, c'est des valeurs qui vont probablement nous faire bouger un petit peu plus. On va les regarder ensemble, juste vous les énumérer rapidement. On parle d'une Église qui écoute Dieu, qui cherche toujours la plénitude de l'Esprit. Je vais revenir sur ça. Une église qui a le cœur sur la main. Une église qui accueille l'étranger, le malheureux, le délaissé. Une église qui est créative, attrayante, qui vise l'excellence. Une église qui aime Longueuil et sa culture. Alors ce matin, on va les voir rapidement, d'accord? J'ai comme 35 minutes devant moi pour les survoler rapidement. C'est intentionnel. Je vous les présente rapidement et tranquillement, on va enseigner sur ça, on va grandir dans ces questions-là. D'accord? Alors, premièrement, on va être une église qui écoute Dieu, qui cherche toujours la plénitude de l'Esprit. Tout à l'heure, on a eu ce passage dans Jean où Jésus nous dit, attendez un petit peu, le jour vient, il est présent, où les adorateurs ne seront pas ceux qui adorent là, mais c'est ceux qui vont vivre une communion spirituelle, une relation esprit à esprit avec Dieu. Et cette relation-là ne va pas reposer sur n'importe quoi. Elle va reposer sur une révélation de la vérité. Et donc, on veut grandir dans ce domaine-là parce que souvent, notre réflexe dans un milieu comme le nôtre, c'est d'avoir une approche assez rationnelle à la relation avec Dieu. Une approche où on s'en va dans les Écritures puis on cherche des principes, des préceptes. Mais est-ce que lorsque je suis en train de lire les Écritures, mon cœur est à l'écoute de ce que l'Esprit veut appliquer dans ma vie? Est-ce que lorsque je marche au quotidien, ce que je cherche à être, c'est cet adorateur en esprit et en vérité? Et parfois, j'ai l'impression qu'on va dans la vie comme si l'Esprit-Saint n'existait pas, comme s'il ne nous habitait pas, comme si cet Esprit-là n'était pas là en nous pour parler à nos cœurs. Tournez avec moi dans Romains 8, s'il vous plaît. On va revenir sur ce passage quelques instants ensemble. On remonte un tout petit peu plus haut que tout à l'heure au verset 1, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Un des domaines où on veut grandir comme Église, on veut apprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là qui nous habite est une personne. C'est la personne de Dieu. C'est, ailleurs, il est appelé l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et donc, quotidiennement, régulièrement, l'Esprit cherche à incliner mon cœur vers les choses de Dieu. L'Esprit cherche à donner vie à ces lettres-là pour qu'elles aient une portée dans mon cœur, dans mon âme. Et ça me demande à moi d'affectionner, comme dit Paul, l'Esprit de Christ, l'œuvre que l'Esprit veut faire en moi. Regardez un petit peu plus beau verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent, s'attachent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent, s'attachent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle est ennemie avec Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Paul arrive dans ce passage-là, puis Paul est en train de dire, premièrement, si l'Esprit de Dieu ne te parle jamais, puis dans ta vie, dans ton cœur, tu vois que tu es toujours porté à vivre selon la chair, à vivre selon tes principes, à vivre dans une constante rébellion avec Dieu, la première question que tu devrais te poser, c'est est-ce que tu es même un enfant de Dieu? Est-ce que tu es même... C'est lourd, c'est gros, là. C'est gros, mais c'est important parce qu'on parle de ton éternité, premièrement. Mais Paul est en train de dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, c'est simplement que tu n'appartiens pas à Christ. Et si tu as l'Esprit de Christ, il te parle. Il t'amène à affectionner les choses de l'Esprit, c'est-à-dire à affectionner la loi de Dieu, la parole de Dieu, à chercher à lui plaire. Ailleurs dans les Écritures, Paul va nous dire qu'on peut attrister l'Esprit, qu'on voit même qu'on peut éteindre l'Esprit. Et donc, c'est possible dans ta marche spirituelle, c'est possible que tu sois à un endroit, à un moment dans ta vie où l'Esprit ne parle pas parce que tu as attristé en résistant à l'Esprit, en n'écoutant pas ce que Dieu était en train de te dire. Et tu es à cet endroit où tu dis, « Mais Seigneur, mon cœur est aussi froid qu'avant que je ne te connaisse. » OK. Mais quand tu regardes en arrière dans ton histoire, est-ce que tu es capable d'identifier un temps où ton cœur vibrait pour Dieu, où l'Esprit de Dieu te parlait? Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu as besoin qu'on te redise l'histoire de l'Évangile. Et tu as besoin d'être saisi par ce message-là merveilleux pour en venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et un autre indice qui pourrait t'aider à dire, mais peut-être dans le fond, je ne suis pas chrétien, c'est si toute cette patente-là puis tout ce que tu entends, c'est toujours super lourd. Ce sont des lois qu'on dépose sur tes épaules. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu n'as pas l'Esprit de Christ. Ça devient un fardeau insupportable. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit l'attire constamment et il voit lorsqu'il est en train de l'attrister. Mais peut-être aussi que ton cœur s'est refroidi. Et j'ai lu dernièrement dans l'Apocalypse, on voit des églises qui se sont refroidies, d'accord? Alors, c'est possible pour l'enfant de Dieu aussi de se refroidir et de faire taire l'Esprit qui habite en lui. Mais je vais te dire, comme Jésus dit dans l'Apocalypse, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as perdu ton premier amour. Il y a des idoles qui sont venues s'installer dans ta vie. La semaine prochaine, dans les prochaines semaines, on va être dans le livre des juges. C'est le livre de l'idolâtrie. On va parler des idoles ensemble. Des idoles qui viennent nous distraire de Dieu, qui font de nous des disciples tièdes. Mais si tu as l'Esprit de Christ, il habite en toi et il veut te parler. Et nous voulons grandir à cet égard-là comme Église. Nous voulons affectionner les choses de l'Esprit. avoir cette disponibilité devant Dieu. Au verset 14, je continue. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il y a quelque chose de relationnel dans ça. L'Esprit de Dieu m'habite et parle à mon cœur. Lorsque je lis la loi de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, elle prend vie et elle fait vibrer mon cœur. Et si vous dites, oui, mais Yannick, t'es quoi? C'est quoi que tu es en train de me dire ce matin? Je lis ça, puis c'est mort pour moi. Tu as besoin de prendre le temps de lire encore, d'aller dans la prière et de dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre animé du fruit de l'Esprit, rempli de ton Esprit, afin que cette parole-là soit vie dans mon cœur. Et Dieu aime ça lorsqu'on crie à lui puis on cherche sa face. Dieu ne nous demande pas d'être sur la coche. Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Et si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir progressivement réveiller ton cœur. C'est ça qui va se passer. Et tu vas entendre, je ne te dis pas que tu vas entendre une voix audible, ta vie, ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de faire face aux souffrances de la vie, ta manière de faire face aux épreuves de la vie, ta manière de voir le monde qui va mal va résonner avec la parole de Dieu. Et ton cœur va de plus en plus s'affectionner des choses de l'Esprit. Et on veut devenir une église qui quotidiennement cherche dans son cœur à être remplie de l'Esprit. Et on va savoir qu'on est là lorsque régulièrement, pas tous les jours, on ne sera pas parfait, mais régulièrement, on va commencer nos journées en disant, Seigneur, c'est par ta grâce aujourd'hui que je peux te glorifier et marcher pour toi. Et Seigneur, je vais être disponible ce matin, aujourd'hui, pour que tu me remplisses, que tu viennes me parler, que tu viennes me corriger, que tu viennes m'instruire, que tu te serves de moi, Seigneur, que tu m'amènes au-delà du confort où je suis, Seigneur, parce que je suis ton serviteur. Et quotidiennement, ça va être notre quête. Je pense que ça exprime particulièrement une attitude de foi, une attitude de dépendance envers Dieu. Je dirais que c'est le désir d'être habité par la parole de Dieu, pas simplement avec notre intelligence, mais dans notre cœur, pour qu'elle porte en nous. Alors, d'une part, habité par la parole de Dieu, d'autre part, constamment dans la prière. Dans la mesure où on va avoir ces deux qualités-là régulièrement dans notre marche chrétienne, habité par la parole de Dieu constamment dans la prière, je pense que ça va être des signes très clairs qu'il y a cette recherche quotidienne de la plénitude de l'Esprit. Puis il va arriver des choses. Il m'est arrivé des affaires cette semaine, puis pouf, je me fais heurter, je me fais blesser, la chair embarque, les raisonnements deviennent tout croche, mon cœur est triste, puis je dis, mais Seigneur, je suis rendu où? Je suis en train de m'éloigner de toi, puis j'ai besoin de retourner auprès de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre la joie à travers ça, puis voir, considérer ces choses-là à la lumière de ta parole. Viens, parle-moi, Seigneur, parce que là, c'est ma chair qui parle, c'est pas mon esprit, mais je veux affectionner les choses de l'esprit. Jonathan Edwards, qui est un des plus grands théologiens dans l'histoire de l'Église, a eu le privilège aussi d'assister à des réveils absolument extraordinaires. Et lorsqu'il a essayé de comprendre ce qui se passait dans le cadre de ces réveils-là, il y avait toutes sortes de phénomènes, puis les gens essayaient de définir, d'identifier comme des clés pour créer des réveils. Okay? Ça ressemblait à ça. Ils disaient, OK, dans tel réveil, à tel endroit, il s'est passé telle affaire. Puis souvent, c'était plus une disposition du cœur, la repentance, tout ça, mais des fois, des manifestations aussi surnaturelles, incroyables. Puis ils cherchaient à reproduire ces affaires-là. Et donc, Jonathan Edwards a écrit sur ça pour dire qu'est-ce qu'il comprenait de ce qu'il a vu, parce qu'il a vu des milliers de personnes être saisies par l'Esprit de Christ. Puis c'est comme il y a une vague incroyable de repentance chez les chrétiens qui reviennent à Dieu, puis chez les non-croyants qui se convertissent, qui croient en Jésus-Christ. Et une des choses que Jonathan Edwards a identifiées dans tous les réveils qu'il a pu voir, il y avait ce qu'il appelait une prière extraordinaire. Une prière extraordinaire. C'est une prière qui n'est pas comme celle qu'on fait à tous les jours. Jack Miller, le père de Paul Miller, plusieurs ont lu le livre A Praying Life, une vie en prière, qui a été écrit par Paul Miller. Paul a été énormément inspiré, instruit par son père Jack, qui était un homme qui était très près de Dieu. Jack Miller dit qu'il y a deux sortes de prières qu'on peut faire. Il y a la prière de maintenance, Puis il y a la prière pour le front. Puis il dit, chaque fois que le peuple de Dieu est en feu pour Dieu et rempli de l'Esprit, ce qu'on trouve dans l'Église, c'est la prière pour le front. Où on s'en va sur le champ de bataille. Trois caractéristiques, si on veut devenir pratique, pour vous encourager à commencer à prier. Et une des choses qui est fascinante avec ces moments où l'Église est remplie de l'Esprit à travers l'histoire, une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que ça peut commencer avec 2 personnes, ça peut commencer avec 3 personnes, ça peut commencer avec 10 personnes. Vous savez qu'on a des dames qui pleurent et prient pour cette Église depuis des années. Et le genre de prière qu'elles font, parce que je parle avec certaines d'entre elles, ce n'est pas des prières de maintenance, je vous le garantis. C'est des prières pour le front. Voici les requêtes à apporter à Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai 3-1, là, je m'excuse. On va dire que ce sont toutes les 3 aussi importantes. C'est bon? Je crois dans la souveraineté de Dieu. OK? La grâce de voir et de confesser nos péchés, d'être remplis d'humilité. Parce que c'est une grâce de Dieu lorsque même un chrétien se repent. Notre cœur n'est pas porté à aller là. On a tendance à s'asseoir, à s'endormir, à trouver un confort, à juste s'envelopper du péché comme une doudou, puis de s'asseoir là. Et lorsque le cœur est porté vers la repentance, c'est une grâce de Dieu. Alors prions pour que Dieu nous accorde cette grâce-là constante de voir nos péchés, de les confesser, d'être remplis d'humilité devant Dieu. Prions pour de la compassion et du zèle, les deux, de la compassion et du zèle pour l'Église, pour le corps de Christ. Quand vous rencontrez des chrétiens qui disent qu'ils sont remplis de zèle et qui ont un mépris profond pour toute forme d'Église locale, vous savez que ce n'est pas une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre charnelle. Prions pour de la compassion et du zèle pour l'Église et pour ceux qui sont perdus. Dans tous les cas où il y a eu des réveils spirituels importants, il y avait cette passion-là qui ne créait pas de balises. Il y a cet amour pour tous les hommes qui est là. Et prions pour un désir profond de connaître Dieu, de voir sa face, de voir sa gloire. Cette expression, ces expressions qui reviennent régulièrement dans la Bible, où il y a cette idée que Dieu nous donne une fraîche révélation de sa personne à travers des circonstances, des choses qu'il fait, à travers sa parole. Mais il y a une révélation dans nos cœurs. Notre cœur est illuminé à nouveau. Puis on dit, Seigneur, je vois ta gloire par des conversions, par mon cœur qui est bouleversé, par ta provision, par ta parole qui devient simplement magnifique. Lorsque je l'ouvre, je découvre combien tu es beau. À nouveau, Seigneur, je suis bouleversé. Prions pour ça. Alors, si vous voulez être pratique, là, commencez à mettre ces prières-là quotidiennement devant le Seigneur pour que Dieu nous conduise là à être une Église qui cherche quotidiennement à être remplie de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, une Église qui a le cœur sur la main. Dans Marc 12, 44, Jésus est assis puis est en train de regarder les gens qui viennent donner des offrandes dans un tronc, puis c'était pour le temple, tout ça, puis les gens viennent, puis ils donnent, puis il y en a qui donnent des grosses sommes, tout ça, puis il y a une dame âgée qui vient, puis elle donne un sou. Presque rien. Presque rien. Puis pourtant, c'est celle-là qui a touché le cœur de Jésus, parce que Jésus dit, car tous ont mis de leur superflu. Mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, et même de sa subsistance. On veut apprendre à être une Église qui donne, oui, son argent, oui, ses biens matériels, mais son temps, son cœur. En dépassant le superflu. On ne donne pas pour cocher une case, on ne donne pas pour dire, « Hey, j'ai fait ma part. » Ma part, c'est l'Esprit qui va me le dire quand il va me dire d'arrêter de donner, c'est tout. On veut être une Église qui ressemble à Jésus, qui est allé jusqu'à se dépouiller lui-même pour que nous soyons revêtus d'un vêtement de gloire dans l'éternité. Jésus n'a pas fait juste sa part. Il a donné beaucoup plus que son superflu. Il s'est donné entièrement lui-même. Et donc, nous voulons devenir cette Église-là. Cette dame donnait pour le temple, d'accord? Mais quand on arrive dans le livre des Actes, on voit l'Église qui partage, prend soin les uns des autres. Et il y a ce verset absolument troublant. extraordinaire mais troublant dans Actes 4, 32 qui dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Aïe aïe! Ton char! Ben non, une voiture qui appartient à Dieu, à son service, ça s'adonne qui est parkée dans mon entrée cette semaine. On sait, lorsqu'on lit on continue dans le livre des Actes, puis lorsqu'on lit les Épîtres, les gens, c'était pas une grande commune où tout le monde vendait tout, puis c'est pas ça, les gens demeuraient, plein de gens demeuraient propriétaires de maisons, de terrains, tout ça, mais c'est leur vision de leur bien qui change, c'est leur vision de leur temps, c'est leur vision de leur énergie qui change. Ils font partie d'une famille, et cette famille-là est là pour partager. Et donc, je suis pas en train de me dire, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai un petit extra, je vais donner mon petit extra. C'est plus comme ça que j'apprends à voir mes biens, mon temps, mon argent. C'est pas comme ça que je la vois. Je la vois comme des choses que Dieu me donne pour bénir. Dieu me donne pour servir ma famille, pour voir à mes besoins, partager. Et on veut devenir cette église-là parce que c'est ça que l'Esprit de Christ produit en nous. On veut devenir une église qui a le cœur sur la main, qui a plutôt comme réflexe de dire « Ah, j'aimerais ça en faire un peu plus ». Avec cette espèce de folie, il y a une couple de vieux ici comme moi. Qui a vu la liste de Chandler? OK, les jeunes, c'est le temps que vous la voyez. Là. Vous voyez ce film-là? Là? À la fin complètement, vous vous rappelez cette scène? Encore un juif que j'aurais pu sauver en vendant ma montre, en vendant mes boutons. J'aurais pu encore payer pour en éviter un de passer à l'extermination. Il était obsédé par juste cette idée de dire « j'aurais pu en sauver encore un autre ». Et c'est ça qu'on veut devenir, une église qui a le cœur sur la main. Dieu va bénir. Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de nous dans la mesure où nous gérons nos biens comme des intendants des choses de Dieu qui sont là pour prendre soin, pour donner, pour bénir. Nous voulons devenir une église qui a le cœur sur la main, une église qui est caractérisée par la générosité et par le partage. Troisièmement, une église qui accueille l'étranger, le malheureux, le délaissé. La valeur précédente parlait de générosité et de partage, celle-là parle d'accueil et d'hospitalité. On veut devenir une église qui accueille comme Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ. On veut devenir une église qui est là, qui est accueillante, qui a toujours de la place pour quelqu'un de plus. Et vous savez quoi? Je veux pas me badrer quand je suis devant Dieu puis je me pose ces questions-là puis que j'examine ça. Je veux pas me partir avec juste l'idée de dire « oui, mais mon agenda est plein ». Écoutez, si votre agenda est plein, venez emprunter mon iPhone pour le fun. Venez voir mon agenda. Téléphonez Manon cette semaine. Puis demandez si elle a 5 minutes pour un rendez-vous. J'ai ce casse-tête-là à chaque semaine. Mais je ne peux pas partir de là. Je ne peux pas partir de là. Je dois partir avec mon cœur. Avec mon cœur, je veux accueillir. Le Seigneur va me montrer qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cet agenda-là parce que je suis pareil comme tout le monde, puis Jésus, des fois, était tellement brûlé qu'il disait, « OK, on se pousse. On se sauve par là, il faut que j'aille faire une sieste, je suis juste comme plus capable. » C'est correct. Mais c'est mon cœur. On veut avoir ces cœurs qui accueillent. Et ça commence premièrement par la maison de Dieu. Paul nous dit, « Accueillez-vous les uns les autres comme vous avez été accueillis en Jésus-Christ. » Il y a quelque chose de fascinant qui est en train de se passer dans l'Église dans les dernières années. Il y a beaucoup plus d'immigration. Et je suis désolé, je vais vous mettre un peu sur l'avant-scène, d'accord? Sur la sellette, ceux qui viennent d'ailleurs. Comme si nous autres, on ne venait pas d'ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'on est maintenant sur le boulevard Roland-Thérien, puis l'Église est de plus en plus connue, puis les gens passent, puis ils vont sur le web, puis ils disent « Ouais, ça c'est une Église qui croit ce que je crois, puis ils arrivent ici. » Et vous savez quoi? L'hospitalité, l'accueil commence par la maison de Dieu. Et ces gens-là qui arrivent d'ailleurs, du jour au lendemain, se retrouvent avec plus de famille pour fêter Noël. Dimanche qui s'en vient, ils vont se retrouver encore en famille, comme dimanche dernier, comme le dimanche d'avant, à moins que chacun d'entre nous les invite à venir manger chez nous. Cette année, j'ai été béni de passer le réveillon du jour de l'an avec plein de familles. Puis une des familles était super contente de dire quelque chose. Je ne sais même plus si je voulais partager, mais super contente de dire, écoute, on passe le jour de l'an avec. Puis vous savez, il y en a qui viennent d'ailleurs, puis le pasteur, c'est comme, ouh, c'est quelque chose. T'sais. Ici au Québec, c'est mon chum. Mais touché juste de passer le réveillon avec le pasteur et sa famille, puis ils étaient vraiment heureux, puis je me réjouissais, puis à un moment donné, ils ont dit quelque chose. Puis les autres ne le savaient pas, mais ça m'a brisé le cœur. Puis pour eux, c'est un compliment. Ils m'ont dit, pour la première fois depuis un an, on mange chez des chrétiens. Pour la première fois depuis un an, on mange chez des chrétiens. C'est la première fois. On veut devenir une église hospitalière, une église qui accueille, qui rouvre nos maisons. Et dans ce temps-là, c'est la plus belle manière de connecter avec les gens, c'est un repas. C'est une valeur qui n'a pas changé à travers les siècles. Vous voulez connecter avec des gens, vous voulez les accueillir, invitez-les à manger chez vous. Partagez un repas. Qu'ils soient dans le besoin, pas dans le besoin, qu'ils mangent autour d'une table avec vous, qu'ils soient dans votre cuisine avec vous. Vous n'avez pas le moyen d'accueillir, regroupez-vous ensemble, puis dites, hey, on peut-tu inviter du monde chez vous? Je vais apporter la salade, j'apporte ça, je veux juste qu'on ait un bon temps ensemble. On veut devenir cette église-là qui accueille. Maintenant, on va aller plus loin que ça. On veut devenir cette église qui va accueillir l'étranger, le malheureux, le délaissé. Et ça veut dire non seulement être ici puis dire, « Oh oui, Yannick, moi, il n'y a pas de problème, garde n'importe quand, ceux qui arrivent les accueillent. » Pour Jésus, c'était plus que ça. Ça voulait dire aller vers eux. Ça voulait dire aller vers les pécheurs. La réputation de Jésus, c'était d'être l'ami des pécheurs. Il y avait une mauvaise réputation, ce Jésus-là, vous savez. Il se tenait avec du monde, pas mal poqué, pas très beau, pas très joli. Puis ça troublait beaucoup les bien-pensants puis les gens très propres. Mais il allait vers eux et on veut aller vers eux. Être accueillant, accueillir le délaissé, le malheureux, c'est aller vers eux. Aller entrer dans leur vie, prendre du temps avec eux. On a des opportunités à travers la vie de cette église-ci, à travers nos ministères, d'aller vers des gens qui sont abîmés par la vie. C'est ça la vérité. Vous dites non, mais Yannick, je ne sais pas, j'en ai pas d'opportunité. OK, là je te le dis, là, j'ai du temps pour toi dans mon horaire cette semaine. OK? Puis je te book un rendez-vous avec quelqu'un dimanche prochain. Je peux te donner des noms, je peux te donner des numéros de téléphone. Tu veux faire ça, viens me voir, j'en ai pour toi. Je les présente, d'accord? On a ces opportunités-là. Mais accueillir, ça veut aussi dire aller vers eux. Et ça veut dire quelque chose dans l'Église. Comprenez-moi bien, ça veut dire que cette Église-là va devenir sale. Je parle pas juste du plancher avec bouffe pour tous, là. C'est pas ça que je parle, là. Cette église-là va devenir sale parce qu'il va y avoir du monde poqué qui vont rentrer ici. On vit dans une société abîmée par le péché. Les gens sont abîmés profondément par le péché. Et donc, ce que ça veut dire aussi devenir une église qui accueille le malheureux, le délaissé, ça veut dire qu'on va apprendre, on va prendre à cœur de s'équiper, de se former pour prendre soin de ces gens-là parce qu'ils arrivent avec des péchés qui sont là dans l'histoire de l'humanité depuis toujours, mais en même temps qui sont complexes, qui demandent qu'on soit là pour prendre soin d'eux. C'est pour ça qu'on a des conférences avec CCF, puis Ed Welch, puis ces gars-là. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent des formations en counseling avancées. C'est parce qu'on veut être là pour prendre soin de ces gens-là. Faire de la formation de disciples dans des situations qui sont complexes. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés à vous former pour ça. Pour apprendre à écouter ces gens-là, à les comprendre, à les conduire à Christ, à les aider à grandir. Et c'est ça que ça va nous demander de devenir, de s'équiper et d'accepter que ça ne sera pas toujours beau ici parce qu'il va y avoir du monde abîmé ici. Et lorsque je parle avec certains pasteurs qui sont là, ils vont vers les gens malheureux, ils vont vers les gens qui sont délaissés, ils vont vers les gens abîmés. Ce qu'ils me disent, c'est simple. Ils disent, je lis le Nouveau Testament maintenant, puis je dis l'église de Corinthe, tableau, c'est vrai ça. Parce que ça ressemble à mon église. C'est ça qui va se passer. Je continue. Quatrième. Certainement une de celles qui nous bouge un petit peu plus dans ce que nous sommes dans notre histoire. Une église qui est créative, attrayante, qui vise l'excellence. On est une église qui, pendant des années, était une église comme très familiale, mais là, c'est pas dans le bon sens du terme, d'accord? Qui est très comme à la bonne franquette. Et ça, c'était notre histoire. Il y avait une espèce de mentalité, je fais les choses pour le Seigneur, tu sais, fait que c'est pour le Seigneur, tu sais. Tu devrais être content que je fasse de quoi? Déjà quand même. Alors que dans les Écritures, ce qu'on voit, c'est la tendance inverse complète. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu donnes le meilleur de toi-même. Quand tu donnes pour Dieu, tu donnes le meilleur. Tu donnes pas ton screening qui sort de là. Tu donnes le meilleur de toi. Tu regardes tes affaires et tu dis, voici ce que j'ai à cœur de donner, Seigneur. Après ça, je fais mon budget. C'est vrai, c'était comme ça tout le temps. Et cette dame que Jésus a louangée, c'était ça son attitude, d'accord? Mais c'est vrai aussi dans notre service. C'est vrai dans ce que nous faisons. Et vous savez quoi? Avec l'Église qui grandit, faire les choses un petit peu à la va comme je te pousse, c'est de moins en moins raisonnable, cette affaire-là, parce que ça donne une espèce d'environnement assez chaotique, merci. D'où l'importance d'aller chercher un pasteur exécutif qui va nous aider à avoir des diacres, des diaconesses, mettre des choses en place, bien faire les choses, d'accord? De mieux en mieux faire les choses. Et vous le sentez, vous le vivez. Lorsque vous dites, oui, mais la communication n'est pas claire, on ne sait pas où c'est ça, on ne sait pas quelles sont les ressources. Oups, on a des problèmes avec ça. Oups, on ne sait pas si on peut s'appuyer sur ça, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais un peu tout ça, d'accord? Et une des raisons pour ça, je suis très transparent avec vous, c'est que notre culture, la culture dans laquelle on vit est sensible à ça. C'est un message qui est difficile à comprendre, à interpréter, de dire « j'aime beaucoup Dieu, mais je fais les choses toujours à moitié pour lui ». C'est difficile à décoder pour les non-chrétiens, ça. « Ah, mais c'est pour le Seigneur. » C'est pour ça, ces broches à foin, c'est parce que c'est pour Dieu. C'est comme ça ne marche pas, ça. Fait que lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a même rempli de son esprit des artisans, des artistes qui allaient concevoir des éléments du tabernacle. Ah oui, vous allez voir, on va inviter les créatifs dans l'Église à se laisser aller puis à nous servir avec tous leurs dons, tous leurs talents. Pour la gloire de Dieu, humblement, ça va pas nous décentrer de l'Évangile, de la mission qu'on a, mais oui, on va chercher à grandir dans cela et avoir cette culture de dire, quand je fais quelque chose pour Dieu, je veux donner mon meilleur pour le Seigneur. Parce que ça va faire une différence dans notre vie ensemble et ça va faire une différence dans notre témoignage aussi avec l'extérieur. Enfin, dernière valeur. Comme je vous dis ce matin, peut-être que je vous challenge puis je ne vous donne pas assez de nourriture pour que vous disiez « Ah, Yannick, je vais aller dans les Écritures avec toi. » On va revenir sur ces choses-là, d'accord? Dernière valeur, une Église qui aime l'orgueil et sa culture. Une Église qui aime l'orgueil et sa culture. Dans Jérémie 29, il y a un passage absolument extraordinaire. Lorsqu'on arrive dans le livre de Jérémie, Israël est en train de vivre une situation extrêmement difficile parce qu'ils sont en déportation. Ça veut dire que Dieu les a chassés, les a confiés entre les mains de leurs ennemis. Ils ont été infidèles envers Dieu. Ils ont été déportés, ils sont en exil et ils sont dans une ville étrangère où ils n'ont pas la liberté de faire tout ce qu'ils voudraient faire comme ils voudraient le faire pour marcher dans la sainteté. Il y a toutes sortes de contraintes. Ils voudraient glorifier Dieu. Il y a toutes sortes de lois. Ils vivent au milieu des idoles, au milieu des péchés de cette ville-là. Et Dieu dit quelque chose d'extraordinaire dans Jérémie 29, verset 7. Il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Une des choses dans laquelle on veut grandir, c'est d'avoir un rapport avec la communauté, avec la ville du Grand Longueuil, un rapport, une relation d'amour avec la ville de Longueuil. Certains d'entre nous, notre réflexe, c'est d'avoir une espèce d'attitude de forteresse. Je vis dans un monde hostile et moins j'ai de relations avec eux, moins je vais être taché par eux. Mais Jésus était l'ami des pécheurs. Jésus vivait au milieu. Oh, mais c'était Jésus! Mais l'Esprit de Christ habite en toi, oui ou non? Alors peut-être j'ai besoin de grandir en sagesse, mais je veux entrer dans cette relation-là d'amour avec la ville. Il y a une espèce de culture chez les chrétiens évangéliques qui dit comme la ville aussi, c'est sale, la ville c'est le péché, la ville c'est Sodome et Gomorre. C'est vrai, c'est là qu'il y a plein de péchés. Je l'ai déjà dit, je le répète, la ville, c'est l'endroit où il y a le plus de beauté qui ressemble à Dieu. La semaine dernière, on est allé au concert de Louis-Jean Cormier, puis on était là dans la foule, puis j'étais juste en train d'apprécier cette foule-là qui était tranquille, qui fumait son joint, mais qui était paisible, qui était joyeuse, puis les gens étaient super civilisés. C'est comme, on était tous tassés, puis on se dit, oh, excusez-moi, puis écoutez, c'était vraiment agréable comme contexte, tu sais. Puis à un moment donné, je dis, ça là, c'est 1 million de fois plus beau qu'un coucher de soleil. Parce que tous les gens qui sont autour de moi ont été créés à l'image de Dieu. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'être humain. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'être humain. Même l'être humain qui est pécheur est à l'image de Dieu. Et donc, dans une ville, je trouve une concentration de la beauté de Dieu au pouce carré plus grande que n'importe où dans un pays. Mais notre rapport avec la ville, c'est cette espèce de rapport d'amour-haine où on est là puis on dit non, mais la ville, c'est le péché, c'est le mal. Vous ferez une étude sur les villes dans la Bible. Vous allez voir, les villes sont au cœur du projet de Dieu tout le temps et même dans l'éternité, d'accord? Et donc, on veut apprendre à aimer la ville. On veut apprendre à chercher le bien de la ville. On veut apprendre à voir tout ce qu'il y a de bien et de bon aussi dans ce que la ville fait. Chercher le bien de la ville par notre témoignage, par notre implication, par nos bonnes œuvres dans la ville. Jésus dit dans, c'est-à-dire Pierre dit dans 1 Pierre 2, « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où il vous accuse de faire le mal, il voit vos belles œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. Les gens du monde doivent voir nos bonnes œuvres. Ils doivent nous découvrir comme des gens qui font le bien. » Dans Matthieu 5, j'ai pas le temps de lire les versets qui précèdent, mais je vous encourage à aller prendre le temps de le lire. C'est vraiment intéressant lorsqu'on lit juste le contexte de ce verset-là. Mais au verset 16, Jésus dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » On veut comme Église apprendre à aimer la ville. Apprenez à la connaître, cette ville-là. C'est le champ missionnaire où Dieu nous a appelés. Apprenez à connaître ses fêtes. Apprenez à connaître ses activités. Apprenez à connaître les organismes à but non lucratif qui aident. Apprenez à apprécier tout ce qu'il y a de bien dans tout ça. Et apprenez à aimer ça, parce que c'est ça qu'on est appelé à faire pour aller vers ces gens-là et faire du bien et leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ alors que nos bonnes œuvres brillent au milieu d'eux. Il y a cette idée dans cette valeur-là qui dit une église qui aime l'orgueil et sa culture. Lorsqu'on pense à la culture comme chrétien, on a tendance à dire c'est péché, c'est mal. D'accord? La vérité, ce n'est pas si simple que ça. La vérité est plus complexe que ça. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Là, je m'en vais dans un terrain où vous êtes. Je vais peut-être défaire quelque chose dans votre tête. Les Olympiques. C'est beau, les Olympiques. Ça vous excitait tantôt? Les Olympiques. Les Olympiques, c'est un produit culturel que l'être humain a inventé. C'est même un produit culturel occidental. D'accord? Ce qui nous a permis pendant longtemps d'être les meilleurs au monde. Oui, c'est juste l'Occident qui avait produit ça et qui participait. Attendez, ils s'en viennent. Donc, c'est un produit culturel. Les Olympiques, ce n'est pas quelque chose de neutre qui est juste du sport. Quand vous pensez culture, vous pensez art, vous pensez cinéma, vous dites « péché ». Non, la culture, c'est tout ce que les êtres humains font pour s'exprimer. Comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils entrent en relation, comment est-ce qu'ils expriment leur joie, leur larmes, tout ce que les êtres humains produisent, comment ils entrent en relation ensemble, c'est ça la culture. Les Olympiques, c'est pas un produit culturel neutre parce que là, on est juste en train de faire du sport. Y a-t-il vraiment quelqu'un ici qui pense que les Olympiques sont pas entachés d'un paquet de péchés? Non, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas de mensonges. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de guéguerre. Il n'y a pas des gens qui brisent leur vie pour la gloire d'un pays là-dedans. Ben non. Hop, tout d'un coup, c'est moins cute cette affaire-là. Alors, je pourrais décider de définir ça juste comme ça. Mais en même temps, si je veux être honnête, les Olympiques, en même temps, c'est tellement beau. C'est vrai, je ne suis pas sarcastique du tout. C'est beau parce que je vois le corps humain dans sa splendeur. Je vois le cœur humain dans toute sa beauté. Ça me parle de mon Créateur. Je vois des moments de collaboration, d'entraide extraordinaire dans les Olympiques. Je vois de la camaraderie aussi qui est là, qui est géniale. Je vois des valeurs comme l'effort, le travail, la persévérance. Voyez-vous, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et donc, le rapport qu'on doit avoir avec la culture, c'est un rapport où on apprend à apprécier tout ce qu'il y a de bon dans la culture et on apprend à challenger tout ce qui doit être mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Et la vérité entre vous et moi, c'est que vous êtes tous de grands consommateurs de produits culturels. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup ensemble. Je ne sais pas combien d'heures vous avez passé cette semaine à écouter des téléséries. Ce ne sont pas toutes belles les téléséries que vous avez écoutées. Il y a beaucoup de péchés là-dedans, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. La musique que vous avez écoutée, on est tous des grands consommateurs des produits culturels. Ce qu'on est appelé à devenir, c'est des consommateurs qui ont du discernement. Pas juste un discernement pour dire « Oh, moi je consomme la culture en discernant le péché à chaque endroit. » Non, ce n'est pas ça. On est appelé à voir ce qu'il y a de bon dans la culture et ce qui doit être challengé par la parole de Dieu. Parce que lorsque je veux entrer en relation avec quelqu'un, je vais le faire à travers sa culture. C'est inévitable. Je vous donne un exemple en terminant ce matin, d'accord? Hudson Taylor. On peut peut-être aller à l'acétate, merci. Hudson Taylor, c'est le même monsieur qui est à droite puis qui est à gauche. Moi, je vous invite à lire sa biographie, la version longue, s'il vous plaît. Elle est super bonne en français. C'est une des premières biographies que j'ai lues lorsque je me suis converti. Lorsque ce monsieur-là est allé en Chine, il est arrivé en Chine, s'en allait là comme missionnaire. Et il est arrivé là-bas, puis c'était pas compliqué. À cette époque-là, il y avait le quartier européen, puis après ça, il y avait la Chine. Et les missionnaires chrétiens habitaient dans le quartier européen. Parce qu'ils risquaient de se souiller s'ils allaient vivre dans les autres quartiers, d'accord? Fait que là, progressivement, Hudson Taylor est arrivé là, puis il s'est dit, non, mais comment on va faire pour leur parler de l'Évangile si on a juste l'air des extraterrestres pour toutes sortes de mauvaises raisons? Ça marche pas, cette affaire-là. Alors, vers la fin de sa vie, celui qui raconte son histoire dit qu'à un certain moment donné, on lui avait donné un rendez-vous avec Hudson Taylor. Puis le rendez-vous était dans un petit restaurant, une petite cantine en Chine, où c'était clair qu'il n'allait pas rencontrer beaucoup d'Européens là. Puis il est arrivé à cet endroit-là, puis ça a pris longtemps avant de trouver Hudson Taylor, parce qu'il y avait juste des Chinois dans le restaurant. Jusqu'à temps qu'Hudson Taylor vienne se présenter à lui, puis qu'il dit « C'est moi, Hudson Taylor. » Mais jamais il aurait reconnu. Pourtant, tu sais, c'est pas fait opérer au niveau des yeux, on s'entend. Mais Hudson Taylor avait décidé que s'il voulait apporter l'Évangile aux Chinois, il fallait qu'ils apprennent à aimer leur culture, avec discernement, en discernant les idoles qu'il y a dans la culture, en discernant le mal, mais en aimant les Chinois, en allant vers eux. Et on est appelé comme Église à ne pas avoir un rapport d'hostilité avec la culture, mais un rapport éclairé par la parole de Dieu. Parce que lorsque je veux aller vers quelqu'un, je vais aller vers lui à travers sa culture. Je vais aller parler son langage, je vais aller l'écouter, je vais aller le comprendre. Je vais m'intéresser à ce qui le fait vibrer. L'Église ici ne ressemble pas à une Église en Asie, parce que l'Église ici a une culture particulière. Ne serait-ce que pour le péché, l'Église ici devrait ressembler à la culture environnante. Simplement, on doit avoir ce discernement-là pour aller challenger la culture là où il y a le péché. Alors, je vous donne un devoir pour commencer, d'accord? Commencez à aimer la ville. Commencez à prier pour la ville avec son nom. Notre mandat, c'est le Grand Longueuil, disons, d'accord? Priez pour la ville de Longueuil. Intéressez-vous cette année, cet été, ajustez votre horaire pour participer à des activités de la ville. Allez au milieu des gens, apprenez à voir tout ce qu'il y a de bien dans cette culture-là avec discernement. Pour voir aussi les idoles qu'il y a dans la culture. Et progressivement, Dieu va nous conduire à aller servir la ville et lui annoncer Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une belle assemblée qu'on a. C'est une belle église. Je suis vraiment privilégié avec les anciens de vous servir et ça fait des années. Ça fait des années que je suis ici et je suis vraiment fier de l'héritage qui nous a été confié à travers nos fondateurs. Un héritage où on est ancré dans la parole de Dieu puis on veut grandir dans la parole de Dieu. Je suis fier de cet héritage-là. Parce que cet amour-là pour la parole me permet de découvrir de plus en plus mon Dieu, de découvrir de plus en plus mon Sauveur Jésus-Christ. Cet héritage-là me permet de pouvoir enseigner des gens qui ont besoin d'être instruits parce que le peuple périt faute de connaissances. Ils ont besoin de connaître la parole de Dieu. Ils ont besoin de connaître ce que nous connaissons. Maintenant, Dieu appelle cette Église-là à sortir de ses murs. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on est appelé à devenir des missionnaires. Des missionnaires qui vont être constamment passionnés par cet amour pour l'Église et cet amour pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à devenir une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Une famille proche les uns des autres, qui s'aime, qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Et c'est ça que Dieu va faire au cours des prochaines années, dans sa grâce, par sa puissance. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, parce que tu as fait les premiers pas, tu es venu vers moi. Je suis excité, Seigneur, de voir l'œuvre de ton esprit au milieu de nous, les cœurs que tu réveilles, les gens qui recommencent à entendre ton esprit leur parler, qui ne vivent pas chaque jour de la vie chrétienne comme un fardeau, mais comme une grâce, comme une joie, Seigneur. Ça me fait tellement bien, tellement de bien comme berger de voir ça, Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu détournes de plus en plus mon cœur de moi-même pour le tourner vers toi et vers mon prochain, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu fais grandir ma foi pour apprendre à marcher par la foi, sans inquiétude constante de me dire, mais où est-ce que tu vas me conduire, Seigneur? Sans crainte du lendemain, parce que je sais que c'est toi qui vas nous conduire, Seigneur. Je suis reconnaissant pour cette Église, Seigneur, qui a grandi dans son unité, dans son amour, et c'est perceptible, Seigneur, qui a grandi déjà dans son accueil, parce qu'on me le dit, Seigneur, c'est évident aussi, qui a grandi dans son amour pour ton Évangile, son amour pour son prochain, Seigneur. Notre désir, c'est que ça devienne notre expérience quotidienne, Seigneur. Notre désir, c'est que quotidiennement, nous soyons animés de ton esprit. Viens, conduis-nous, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Transforme-nous radicalement à ton image par la puissance de ton Esprit Saint. C'est en Jésus que nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Amen.